Vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, depuis le stand du gouvernement, en partenariat avec Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue en direct de Nantes sur le stand du gouvernement avec Radio Territoria. On va parler ensemble de la réforme du ZAN vers le zéro artificialisation nette des sols. C'est pas évident à dire, donc on va dire ZAN plutôt. On va faire un point d'étape avec nos invités. Bienvenue à vous, Carole Contamine, bonjour. Vous êtes directrice générale de l'EPF Bretagne. À vos côtés, Ludovic Lamoureux. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Conseiller juridique du sous-directeur de l'aménagement durable, Jean-Baptiste Butlin, qu'on salue. Il n'a pas pu venir sur ce plateau, mais vous le suppléerez, on n'en doute pas, avec brio. Et enfin, Brigitte Barul-Maté. Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Vous êtes déléguée générale de l'AFNO. Et l'AFNO, c'est la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Bienvenue à vous également. L'objectif, on sait, atteindre le ZAN zéro artificialisation nette en 2050 et d'ici 2031, une réduction de la moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à une consommation d'espace de la période de référence, la décennie 2011-2021. Pour atteindre cet objectif, évidemment, les collectivités doivent intégrer, décliner cette trajectoire de réduction dans leurs documents de planification et d'urbanisme. On le fait, ça, on sait, ça fait beaucoup de remous. On en parle beaucoup, notamment dans les presses, dans les médias, depuis maintenant 2 ans. On en parle aussi en ce moment avec des frondeurs qui refusent finalement de mettre en action ce ZAN. On va en parler. Je vais commencer avec vous, Ludovic, si vous le voulez bien, pour nous donner un peu les contours de cette réforme qui est finalement pas si évidente à mettre en place.
Non, évidemment, le ZAN, c'est beaucoup de choses. Vous en avez dévoilé une partie, notamment sa traduction en termes d'objectifs, puisque ZAN, zéro artificialisation nette, qui est plus particulièrement l'objectif d'absence d'artificialisation nette des sols. Alors, qu'est-ce que c'est que l'artificialisation? Oui. Peut-être déjà là, on peut partir de là. L'artificialisation des sols, c'est l'altération durable de tout ou partie des fonctions du sol ou de son potentiel agronomique. Et donc, ça part déjà, en fin de compte, globalement d'un constat, c'est-à-dire que résulte de ce processus, on comprend bien un impact écologique vis-à-vis de la ressource sol et de tout ce qu'elle peut emporter. Et puis aussi des impacts plus socio-économiques, notamment peut-être sur lesquels on reviendra, mais sur la forme de la ville. C'est un constat aussi, évidemment, vous l'avez dit, vous avez donné quand même les objectifs, mais un constat aussi de la consommation passée en réalité des espaces naturels, agricoles et forestiers, notamment avec une consommation assez importante sur les 40 dernières années. Et donc c'est sur la base de ce constat d'abord la stratégie nationale de biodiversité en 2018, puis ensuite via les travaux de la Convention citoyenne pour le climat, la loi climat résilience a traduit en fin de compte ce nouvel objectif qui s'inscrit en fin de compte dans la continuité d'objectifs déjà passés en matière d'urbanisme et d'aménagement, que sont les objectifs notamment de lutte contre l'étalement urbain, de gestion économe des espaces. Et donc la loi climat et résilience a fixé un objectif national d'absence d'artificialisation nette des sols à l'horizon 2050, avec, vous l'avez dit, un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espace sur les 10 prochaines années, donc 2021-2031, par rapport aux 10 années passées. Objectif sur lequel je pense on reviendra, mais qui est décliné territorialement par les collectivités.
Si on met ce programme en place, Ludovic, c'est aussi parce qu'il y avait trop d'artificialisation. Donc comme vous l'avez rappelé, finalement, on bétonnait à tout craint. On parle souvent de ce chiffre un peu frappant, un département tous les 10 ans qui était artificialisé. Il était donc urgent, surtout dans le contexte actuel de transition écologique, de faire un peu machine arrière. Mais il faut dire également, je pars sous votre contrôle, que le zéro artificialisation, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus construire. Par contre, on peut avoir des programmes qui renaturent aussi. Donc il y a le solde en fait qui va venir entre l'artificialisation et ce qu'on redonne finalement, ce qu'on remet en plein champ entre guillemets.
Exactement, donc le zéro artificialisation nette, c'est bien de le souligner, on ne le dit pas assez, mais c'est évidemment pas un arrêt total des constructions.
Parce que ça a été pris comme ça, je me permets,
oui.
Qu'on a entendu, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus construire, les promoteurs ont poussé des hauts cris en disant on nous empêche de tout faire alors qu'on a besoin de logements et de construire la ville.
Mais, Oui, évidemment, c'est pas ça du tout. Enfin, ça s'inscrit déjà, mais je l'ai plus ou moins dit tout à l'heure, hein, dans la continuité, en fin de compte, d'un constat qu'on faisait depuis déjà quelques années. Ensuite, le zéro artificialisation nette, quand bien même cet objectif est fixé à l'horizon 2050, c'est quand même une traduction progressive, déclinée territorialement pour tenir compte notamment des besoins. Peut-être qu'on y reviendra, mais... ça n'est pas, du coup, un arrêt total des constructions. C'est cette forme très progressive, déclinée, et évidemment vous l'avez dit, je vais y revenir, mais sa traduction concrète, c'est en fin de compte un bilan surfacique, hein, qui est fait, c'est-à-dire entre le flux de surfaces nouvellement artificialisées mais aussi de surfaces qui sont dites désartificialisées, et ce à quoi vous faisiez écho en parlant de renaturation, et donc ça n'est pas seulement la mesure brute de l'artificialisation, c'est aussi tenir compte en fin de compte d'un certain nombre de démarches qui sont mises en place pour pouvoir renaturer des espaces par exemple déjà urbanisés.
Le bilan surfacique, ça c'est un des mots qu'on utilise que sur les plateaux avec la DGLN ou avec le gouvernement. On va continuer le tour de table si vous voulez bien pour présenter aussi les différentes activités. Brigitte Barul-Maté, vous êtes déléguée générale de l'AFNO. Est-ce que vous pouvez nous dessiner aussi les contours de cette fédération ? Qu'est-ce que vous faites exactement ?
L'AFNO rassemble la cinquantaine d'agences d'urbanisme qui sont des outils d'ingénierie publique qui travaillent avec les collectivités et aussi dont l'État est membre, et autour de trois grandes missions. Une mission d'observation et notamment foncière, immobilière, pour la mise en œuvre du ZAN. Une mission d'accompagnement des politiques publiques et notamment des documents de planification. C'est vrai que le planificateur a mis beaucoup l'accent sur les documents de planification pour la mise en œuvre du ZAN, mais aussi des démarches plus opérationnelles de sobriété foncière, et puis aussi beaucoup de pédagogie, notamment actuellement autour du zéro artificialisation.
Et il en faut, effectivement. Concrètement, depuis la mise en œuvre de cette réforme, pour les agents d'urbanisme, comment vous intervenez et auprès de quel public, de quelles administrations ?
Alors, les agences d'urbanisme ont des membres qui sont des collectivités locales, donc des intercommunalités, des SCOT, des régions. Donc les agences d'urbanisme interviennent à différents niveaux dans l'élaboration de ces documents SCOT, schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme intercommunal. Et donc il s'agit de revoir les modèles d'aménagement pour être moins gourmands en consommation de sol, mais aussi d'élaborer des vraies stratégies de sobriété foncière, c'est-à-dire d'aider à révéler le foncier invisible qui peut être mobilisé à travers de la vacance, à travers des friches, à travers des dents creuses. C'est aussi accompagner les collectivités dans un autre modèle d'aménagement avec plus d'intensification urbaine, mais en même temps aussi plus de nature en ville, plus d'espaces revégétalisés pour répondre aux enjeux écologiques aussi.
Et voilà, c'est l'enjeu, c'est de construire vraiment une ville un petit peu différente, densifiée, vous l'avez dit, reconstruire la ville sur la ville, en utilisant aussi des espaces qui étaient déjà artificialisés et peut-être, vous l'avez dit, des friches, bon, bien sûr, à dépolluer. Il y a d'autres enjeux. Peut-être c'était un peu plus compliqué que de construire sur une terre vierge, mais en même temps, on en a besoin. Carole Contamine, on finit le tour de table. Vous êtes directrice générale de l'EPF Bretagne. Là aussi, un petit mot de l'EPF tout d'abord, et ensuite vous nous direz comment vous êtes impactée par cette réforme.
Bonjour à tous. Alors, un établissement public foncier, il y en a plusieurs sur le territoire national. Ça sert à quoi ? C'est un outil aux côtés des collectivités locales qui agit sur sollicitation des collectivités locales pour les aider à mettre en œuvre et faciliter la mise en œuvre opérationnelle des opérations de production de logements ou de développement économique qu'elles veulent mener sur leur territoire. Alors les établissements publics fonciers, ils interviennent justement pour aider les collectivités à prendre le virage dont il est question aujourd'hui, le virage du renouvellement urbain et du développement urbain moins consommateur d'espaces agricoles et naturels, puisque maintenant les établissements publics fonciers n'interviennent plus que pour aider la mise en œuvre d'opérations de renouvellement urbain, oui. Ils n'interviennent pas justement sur des portages fonciers en extension urbaine ou de fonciers agricoles ou naturels ou vraiment à la marge. Et que fait un établissement public foncier ? Ben en fait, il aide la collectivité à maîtriser le foncier dont elle a besoin pour mener à ces opérations dont on parlait. Donc pour ça, il va venir acquérir le foncier à bon prix, parce qu'un des enjeux, c'est de maîtriser les prix, surtout dans la période actuelle qui voit une envolée des prix assez forte depuis plusieurs années. Il maîtrise et il garde en propriété ses fonciers. Il assure la maîtrise de l'assiette foncière dont on a besoin justement pour mettre en œuvre l'opération. Il prépare les fonciers à l'opération d'aménagement ou de développement de logements à venir, notamment en menant les opérations en maîtrise d'ouvrage direct de déconstruction ou de dépollution dont qu'il est nécessaire justement pour mettre en œuvre l'opération demain. Donc en fait, il facilite l'intervention d'autres intervenants. D'accord. Que sont les aménageurs et les constructeurs de logements ou d'autres aménités urbaines. Pour faire tout ça, il accompagne aussi les collectivités en ingénierie, et c'est important de le souligner, notamment pour assurer la faisabilité et le passage à l'opérationnel facilité des opérations, donc en amont. Et il peut aussi accompagner les collectivités en stratégie foncière préalable. Et c'est là qu'on est très articulé au travail des agences d'urbanisme. Et d'ailleurs, j'allais dire, la sortie de la loi Climat Résilience nous avait amené dès le début de l'année dernière, en fait, à conclure un partenariat justement entre l'AFNO et les EPF d'État, parce qu'on considère justement que le partenariat de ces différents acteurs auprès des collectivités locales est absolument indispensable à la bonne mise en œuvre du zéro artificialisation nette. Je l'ai quand même dit.
Bravo. Donc, on l'a compris, travail main dans la main entre les EPF et les agences d'urbanisme. Est-ce que ça se traduit justement par des plans pluriannuels où on se dit, ben, voilà ce qu'on va pouvoir faire sur un certain nombre d'intercommunalités ou de territoires ?
Ça se traduit surtout par beaucoup de pragmatisme et de surmesure au regard des besoins des territoires. On se connaît, on sait, j'allais dire, conseiller l'intervention de l'autre auprès des collectivités quand c'est nécessaire, et c'est vraiment ça qu'il faut qu'on arrive à faire auprès de chacune des communes. Le zéro artificialisation net, en fait, il renforce la légitimité d'intervention de l'action foncière, encore plus parce que quand même il pose la question de la compétition renforcée en fait des usages logement, développement oui. économique, on parlait équipement, naturation, enfin voilà, les élus sont amenés à se poser ce genre de questions, et donc la question de la stratégie foncière et de l'accompagnement à la stratégie foncière, la déclinaison dans les documents d'urbanisme, puis la maîtrise foncière publique, foncière effective pour la mise en œuvre d'opérations, sont différentes clés et outils à correctement articuler. Et c'est là qu'on a besoin de toutes les forces et de tous les accompagnements auprès des collectivités locales.
Bien sûr. Ludovic, justement, Suzanne, ça y est, c'est une réalité. Il est lancé, les acteurs se mobilisent sur le terrain. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan ? Est-ce que la réforme est désormais sur les rails, ou il y a encore des freins, des réticences ?
Alors, la réforme est engagée évidemment depuis 2021, bon, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis comme le confirment les acteurs, avec une démarche qui était quand même déjà connue. Hein, y a pas, voilà, ça s'inscrit dans le prolongement de choses qui étaient déjà faites auparavant. Mais la réforme effectivement est bien engagée, avec notamment donc cette déclinaison territoriale via les documents de planification et d'urbanisme, et donc une mobilisation forte des collectivités pour traduire les deux objectifs qu'on a évoqués au tout début. Et ça commence d'abord évidemment par l'engagement de l'ensemble des régions à faire évoluer leurs documents de planification régionale, notamment le SRADET qui est le plus commun pour les régions.
Alors on essaye de traduire les acronymes si vous le voulez
oui,
bien.
Oui, alors schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
Merci.
Voilà, sachant qu'évidemment il y a des régions qui ont des documents spécifiques, que sont l'Île-de-France, la Corse et les territoires ultramarins. Et donc avec cet engagement des régions donc depuis 2021 d'évolution de leurs documents de planification pour intégrer ces objectifs et les décliner territorialement en tenant compte d'un certain nombre de critères et de besoins. Et évidemment, tout le monde le sait, il y a eu, au vu d'un certain nombre de discussions sur le ZAN, une nouvelle étape législative qui a été actée en juillet dernier, qui est venue non remettre en cause les objectifs, mais évidemment compléter, renforcer le dispositif pour mieux tenir compte des spécificités territoriales, donner de nouveaux outils aussi aux collectivités, notamment aux maires. Donc on peut dire que oui, effectivement, la réforme est bien en cours, et en s'appuyant notamment, évidemment, sur des acteurs clés que sont notamment les EPF et les agences d'urbanisme.
À travers vos paroles, Ludovic, on entend qu'il y a une certaine ingénierie aussi qui est nécessaire. On parle de documents d'urbanisme, on se dit que peut-être pour des communes un petit peu plus petites, c'est pas évident d'avoir les moyens. Comment les agences d'urbanisme interviennent sur ce plan-là, Brigitte ?
Alors justement, ma collègue de l'EPF l'a bien dit, je pense qu'il faut pouvoir dire aux communes, aux intercommunalités qu'elles ne sont pas seules. En général, sur leur territoire, il y a des ingénieries qui peuvent les accompagner sur toute la chaîne du processus. Donc on est dans une période assez forte de révision des documents d'urbanisme pour pouvoir intégrer le ZAN à tous les niveaux régional, schéma de cohérence territoriale et à l'échelle communale ou intercommunale. Mais après, il faut passer à l'opérationnel et les agences d'urbanisme et les EPF sont là pour les accompagner, pour définir de nouvelles manières de concevoir la ville avec des formes urbaines plus compactes, mais aussi on utilise souvent à l'AFNO la notion d'intensification intelligente, oui. C'est-à-dire mieux construire aussi bien dans les centres-villes en recherchant justement ce foncier qu'on peut mobiliser de friches ou de dents creuses, mais aussi dans le périurbain, qui est un vrai gisement potentiel de transformation, d'intensification, des usages également.
Et on parle beaucoup des zones commerciales en périphérie. On sait que voilà, dans les villes moyennes, il y en a beaucoup.
Il y a effectivement
c'est une des pistes évoquées en tout cas par le ministre du Logement.
Tout à fait. Il y a des programmes en cours qui permettent de mobiliser du financement pour la transformation et des centres-villes comme Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain. Et aussi maintenant du potentiel des centres commerciaux qui doivent aussi muter parce que la conception du commerce mute également. Et tout ça entraîne quand même un changement important dans les représentations des modes de vie. Et il y a aussi une dimension très forte d'embarquer tout le monde dans d'autres modèles d'aménagement qui ne sont pas obligatoirement ceux qui ont prévalu dans les années écoulées.
70-80, c'est vrai que l'hypermarché, voilà, où tout le monde allait, on allait pousser le caddie le samedi après-midi, c'est un petit peu passé de mode et il faut réinventer évidemment ces grands ensembles. Comment ça se traduit, Carole Contamine, au niveau justement de votre région, on va focuser puisqu'on a, on a l'exemple de l'EPF Bretagne, au niveau de votre territoire, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples pratiques de comment ça se met en place ?
Alors comment ça se met en place ? Ça se met en place pour ce qui concerne le PF par un doublement du rythme de sollicitation depuis 18 mois.
Un doublement ? D'accord. Oui. Donc on passe de 1 à 2 ou de 100 à 200 ?
Alors on passe de 120 à 240 sollicitations à l'année, voilà, qui ne se traduisent pas toutes par des nouvelles conventions opérationnelles. C'est dans ce cadre-là qu'on travaille, nous, avec les collectivités locales, mais qui a généré une hausse de demandes de conventionnement de plus de 50% sur les années, enfin en moyenne annuelle. Quoi,
d'accord, c'est considérable.
Donc ça donne bien à voir en fait le besoin d'accompagnement dont on parlait à l'instant et le besoin de passage à l'action effectivement que sollicitent les collectivités locales et pour lequel justement les établissements publics fonciers sont... Enfin, on a de plus en plus de témoignages de collectivités qui nous disent « sans vous, on ne sait pas faire ». Voilà. Et avec dans la période à venir, on ne saura pas faire sans vous. Le zéro artificialisation nette, grosso modo, confirme ce qu'on accompagnait depuis notre création, hein, puisque l'établissement public foncier en Bretagne, il a été créé en 2009 pour justement aider les collectivités locales à avoir des développements moins consommateurs de foncier agricole et naturel. Donc il est depuis le début en accompagnement de la sobriété foncière. Mais là, la prise de conscience, elle est telle que nombre de collectivités se tournent vers nous de façon très forte. Le premier changement, en fait, il est là. Après, j'allais dire, dans le travail quotidien opérationnel, ça ne change pas grand-chose pour nous, parce que la matière était déjà celle qu'on travaillait depuis déjà plus de 10 ans avec les collectivités, c'est-à-dire du foncier de densification, d'intensification, du foncier de friche. Voilà, donc ça, on le connaît déjà et c'est ce qu'on continue de faire avec les collectivités locales. C'est plutôt le volume qui change. Et j'allais dire le contexte dans lequel on intervient, parce qu'il y a quand même, j'allais dire, une effervescence de la part des élus autour de la question. On est quand même dans un contexte qui cumule à la fois la loi climat résilience et le zéro artificialisation nette, la sortie de crise sanitaire, qui a quand même généré, en tout cas en Bretagne, mais un peu partout en France, une hausse des prix du foncier, et les difficultés actuelles de hausse des prix de l'énergie, de hausse des coûts des matériaux et donc de difficultés d'intervention des opérateurs en sortie de chaîne de l'aménagement et de la production qui va crescendo. Donc on est à la fois dans une phase, j'allais dire, de encore d'incertitude face à la trajectoire zéro artificialisation, pardon, ZAN, on peut dire ZAN, hein. La trajectoire ZAN et à sa traduction sur les territoires, hein, parce que j'allais dire le début des déclinaisons de territorialisation dont parlait Ludovic tout à l'heure, elle n'est qu'au début, donc il y a un peu d'incertitude de la part des territoires. Il y a une urgence pourtant à intervenir pour faire de la production massive de logements à prix abordable. Et tout ça, justement, avec dans un contexte qui est compliqué d'un point de vue économique au sens large.
Bien sûr.
Voilà.
Sur fond d'inflation, sur fond de remontée des taux, sur fond de pouvoir d'achat de l'immobilier des Français qui est en berne, et malgré, on va dire, un désir d'habiter, un désir de se loger.
C'est exactement ça.
Toujours plus.
Et donc l'EPF, du coup, il devient en quelque sorte le point nodal et le point de passage un peu obligé pour un certain nombre de mises en œuvre d'opérations. Et c'est ça, du coup, qu'on vit au quotidien et qu'on accompagne, du coup, avec des positionnements encore plus forts sur les stratégies foncières amont. Histoire de savoir tenir des fonciers stratégiques qui permettent à la collectivité d'être dans les bonnes trajectoires, avec des réflexions en termes d'innovation, parce que les montages opérationnels et financiers économiques sont compliqués, qu'il faut toujours innover. Et là, on retombe sur les questions de partenariat, avec des montages beaucoup plus imbriqués, avec des aménageurs, avec des promoteurs, avec des bailleurs, pour savoir inventer les bons appareillages, on va dire ça comme ça, juridico-financiers, pour que les opérations puissent sortir de terre. Et là, de ce point de vue-là, les questions de démembrement et de tout ce qu'on peut inventer autour de ça.
Des solutions, par exemple, de bail réel solidaire.
Bail réel solidaire, mais aussi des montages un peu plus à côté de ce qui existe et de ce qui, est déjà codifié dans la loi, sont en train de se mettre en œuvre sur les territoires. Des questions de concession d'aménagement à l'échelle d'îlots, de restructuration d'îlots et non pas d'aménagement au sens opération d'aménagement tel qu'on les connaissait auparavant, sont par exemple des bonnes façons de faire du partenariat public-privé. Et on voit bien qu'on a à la fois besoin des forces et des financements du public et des forces, des compétences et des financements des opérateurs privés pour réussir ces transformations foncières pour la ville de demain.
Oui, en creux, on l'entend, l'EPF donc incontournable, même si ça provoque une surcharge, on l'a compris, de travail, un engorgement. On le voit, hein, ça fait réagir ce ZAN, hein, on a un président de région, région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes en particulier, qui a annoncé que sa région se retirait du processus ZAN, dénonçant un texte ruralicide et affirmant refuser qu'on mette sous cloche les décisions des élus de construire dans la ruralité. Ludovic, je m'adresse à vous, en plus vous êtes un homme de droit, conseiller juridique donc du sous-directeur de l'aménagement durable. On a l'impression, avec ce que vous nous dites, avec des textes effectivement, que ce n'est pas forcément possible de se retirer unilatéralement d'un processus et d'être hors la loi.
Je pense que tout le monde a la réponse. Il n'y a même pas besoin d'être juriste, a priori, en tout cas pour pouvoir avoir une analyse de la situation. Et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Évidemment, il y a un cadre qui est prévu par la loi avec une intervention et un rôle clé pour la région en matière d'aménagement du territoire. Et donc, il y a un certain nombre de mesures qui sont prévues en ce sens. Et évidemment, la loi s'applique à l'ensemble des territoires et des parties impliquées. Après, évidemment, au-delà de tout ce qu'on a pu dire, la loi n'est pas que, en fin de compte, une déclinaison imposée aux collectivités via leurs documents. C'est aussi, d'un point de vue normatif, un certain nombre d'outils supplémentaires qui sont offerts aux élus, notamment, par exemple, pour réintervenir sur les zones d'activité économique. Et c'est aussi, en fin de compte, ça n'est pas que la loi climat résilience et la récente loi de juillet dernier, c'est aussi un certain nombre de moyens qui sont mobilisés autant pour l'accompagnement en ingénierie auprès des acteurs locaux, des collectivités, mais aussi en termes de contractualisation avec des dispositifs très particuliers portés par l'État, notamment les opérations de revitalisation des territoires où l'État est main dans la main avec les acteurs locaux. Mais c'est aussi des financements avec une branche très importante, notamment le fonds Friche, hein, qui a été mobilisé depuis 2021 à hauteur de 750 millions et donc qui a permis d'accompagner cette démarche aussi sur la remobilisation de foncier, pérennisé maintenant dans le fameux fonds vert, hein, où il y a toujours ce volet Friche à hauteur de 300 millions et le volet qu'on évoquait tout à l'heure, hein, qui est quand même le pendant très important, avec un financement prévu sur la renaturation en ville à hauteur de 200 millions. Donc c'est aussi, en fait, ça n'est pas que, en fin de compte, la loi au sens strict et cette phase de déclinaison des objectifs, c'est aussi tout un ensemble d'outils, d'acteurs mobilisés et de financements mobilisés.
D'accord. Brigitte Barul-Maté, vous nous avez parlé tout à l'heure de l'atteinte, hein, des objectifs d'atteinte de cette sobriété foncière, vous l'avez dit, à travers les friches, la vacance, les dents creuses, bref, intensifier, construire, comme on dit, la ville sur la ville. Très pratiquement, quels sont les outils, ou pour ceux qui nous écoutent, les ressources finalement qu'on peut mobiliser, qu'on peut mettre en œuvre dans les agences d'urbanisme? On peut vous contacter en direct, comment ça se passe?
Alors tout à fait, dans les territoires où les collectivités sont dotées d'agences d'urbanisme, il n'y en a pas sur tout le territoire français, mais dans la plupart des agglomérations et aussi sur les territoires périurbains et ruraux, parce que le ZAN sera réussi s'il y a une véritable coopération entre territoires, oui. Et c'est très important, donc on peut accompagner les agences dans l'élaboration de leurs documents de planification, mais aussi dans les politiques de l'habitat et les projets de renouvellement urbain. Et puis aussi, une dimension qui est importante, c'est celle de la connaissance, de l'observation, puisque le ZAN, il y a une dimension de mesure qu'il va falloir opérer. Et donc, les agences sont tout à fait mobilisées pour y répondre. Et partager la connaissance, c'est aussi préparer les décisions et faire œuvre de pédagogie pour qu'elle soit intégrée et que les différents outils aussi soient connus.
Oui, j'ai une question, je rebondis sur ce que vous avez dit, parce que pour mesurer, et mesurer aussi l'atteinte de ces objectifs, encore faut-il mesurer l'existant. On a justement, sur la période de référence 2011-2021, les bons outils, on a les mesures exactes, la data finalement, pour pouvoir comparer par rapport à la prochaine échéance.
Alors, il existait déjà beaucoup d'outils d'observation dans les territoires de l'habitat, de la mesure de la consommation des espaces naturels et agricoles et des observations partagées, puisque l'objectif, c'est de pouvoir en débattre au niveau local. Et là, l'État dote le territoire d'un outil homogène qui permettra d'avoir une référence commune qui n'est pas du tout qui ne va pas se substituer aux outils locaux. Il y a vraiment un enjeu d'interopérabilité entre la connaissance locale et cet outil de mesure nationale, mais qui permet aussi qui permettra de répondre aux engagements nationaux, parce qu'il faut peut-être aussi rappeler que cette zéro artificialisation nette, ce n'est pas seulement la France qui le met en œuvre, mais c'est un engagement européen
bien sûr.
Et qui est aussi en lien avec nos engagements accord de Paris, de décarbonation. Donc c'est un défi à réussir ensemble. C'est vrai que beaucoup d'acteurs peuvent le craindre du fait que ça paraisse des objectifs un peu contradictoires.
Oui.
Et il y a un enjeu à innover pour justement sortir par le haut et réussir cette transformation des territoires.
Bien sûr, et ça résonne avec l'actualité, avec un mois de septembre, vous l'avez entendu, extrêmement chaud, hein. On est vraiment sur une trajectoire assez inquiétante, donc il est temps quand même de réagir, même si ça se fait dans un temps long. Une question pour vous, Carole Contamine, je rappelle, vous êtes directrice générale de l'EPF Bretagne, sur cette feuille de route, on va le dire, certains justement critiques disent on va pas y arriver, c'est trop contraignant, les objectifs sont trop hauts, pour vous, c'est atteignable, c'est quelque chose qu'on peut réaliser dans la décennie à venir? Elle sourit, je le dis pour ceux qui sont en radio.
La question piège à laquelle Carole Contamine ne répondra pas. Non, enfin, c'est... Moi, ce que je trouve intéressant dans la trajectoire ZAN, c'est que ce n'est pas qu'une question de chiffres. On a parlé de chiffres, il y en a, forcément, et la loi obligera à le faire. Il y a, du coup, des enjeux de mesures, d'observation, de déclinaison, et de politique et d'arbitrage, d'ailleurs, d'un point de vue des politiques, et ce n'est pas toujours simple pour faire de la territorialisation. Mais c'est aussi une question de reconnaissance du fait que le foncier, c'est aussi de la qualité des sols, une question d'usage, et j'allais dire, du coup, une approche politique de la vocation d'usage de ces sols au sens noble du terme. Et c'est une formidable opportunité de projet de territoire renouvelé. Et c'est ça qu'on essaie d'accompagner, nous, du coup, j'allais dire, avec d'autres acteurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en tant qu'établissement public foncier, y compris jusqu'à la phase opérationnelle. Donc oui, on y croit. Est-ce que c'est faisable? Ça nécessitera de lever tout un tas de difficultés effectives qu'on a aujourd'hui et qu'on rencontre tous sur les territoires. On parle évidemment de la fiscalité locale qu'il va falloir faire évoluer. Le modèle économique qui n'y est pas encore là, tout à fait. Mais pour autant, l'ambition est noble. J'allais dire, la trajectoire, elle est réelle et j'allais dire reconnue par tous, en fait. Alors là, c'est Carole Contamine, c'est même pas la directrice générale de l'EPF qui s'exprime. Mais c'est vrai que c'est compliqué à mettre en œuvre et qu'il faut entendre aussi les difficultés réelles auxquelles sont confrontés les territoires. Maintenant, c'est un beau défi à relever. On sait qu'on ne sait pas le faire chacun à l'unité et donc il y a des obligations de travail en partenariat assez fortes et on voit de belles initiatives de ce point de vue-là sur les territoires. Donc,
voilà, coopération, concertation, voilà, ça a l'air d'être le maître mot et vous y contribuez en tout cas entre l'AFNO et les EPF. Ludovic, un petit mot de conclusion sur, sur ce ZAN, cette trajectoire ZAN en tout cas bien engagée, qui, on l'a compris, soulève certaines réticences, mais il y a une ingénierie aussi à travers vos témoignages qui est là, qui est au service aussi des territoires et ça va continuer bien évidemment.
Oui, évidemment, c'est peut-être le mot à retenir, mais c'est que c'est une traduction progressive, en fin de compte, de cet horizon que Carole, on partage tous, progressive, qui va donc nécessiter de s'appuyer à la fois sur les forces, déjà constatées d'un certain nombre d'acteurs et des moyens qu'on leur donne, et aussi être vigilant, évidemment, aux leviers qu'il faut pouvoir mobiliser et sur les sujets sur lesquels il faut être en capacité d'innover sur un certain nombre de thématiques, et on voit qui sont montantes aujourd'hui. Vous évoquiez tout à l'heure les zones commerciales, mais ça va être aussi le volet industriel, ça va être le volet de réintervention sur les friches, ça va être les sites naturels, enfin voilà, ça va être un certain nombre de leviers qu'il va falloir mobiliser en fin de compte pour pouvoir, comme on le disait tous, mobiliser toutes les forces en présence.
L'enjeu est colossal, mais les forces en présence sont toutes mobilisées et c'est tant mieux. Un grand merci, on en sait un petit peu plus sur ce ZAN, zéro artificialisation nette des sols. Un grand merci à nos experts, Ludovic Lamour, conseiller juridique du sous-directeur de l'aménagement durable, Jean-Baptiste Butlen, Carole Contamine, merci, directrice générale de l'EPF Bretagne, et merci à Brigitte Barrel-Maté. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de l'AFNO, la Fédération nationale des agences d'urbanisme. À très bientôt sur Radio Territoria.
Vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, depuis le stand du gouvernement, en partenariat avec Radio Territoria.